doit être au téléphone maintenant avec Fabien de la case de santé. Allô Fabien, alors pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la case de santé d'abord ?
La case de santé, alors pour la présenter, il faut d'abord dire que c'est une assoce. Je pense que c'est important parce que c'est quand même le choix d'avoir une structure qui gère un service en santé sur un mode non lucratif. C'est-à-dire que je n'ai pas de faire d'argent sur la santé et que celle-là, ce n'est pas une marchandise. Ensuite, c'est une assoce qui a démarré à Toulouse en 2006. Donc elle a 8 années d'exercice à présent. Et elle s'est structurée autour de deux pôles, un centre de santé et un pôle santé droit. Centre de santé, son ambition, il est un peu double. Il est d'abord de proposer sur un mode innovant, dans un premier temps, qui était de l'idée d'en faire la démonstration de la faisabilité et du besoin qu'il y avait d'organiser un tel service, d'un service de santé de premier recours, on appelle ça. Le premier recours, c'est en gros se mettre en capacité de répondre à tous les besoins premiers d'une population en santé, pas seulement en soins, parce que ça c'est aussi une des dimensions importantes du projet, qui est d'avoir une approche globale en santé et absolument pas de réduire le travail qu'il y a à faire à du curatif, de l'individuel, et que les enjeux en santé, ils sont bien ailleurs, d'abord de travailler plus sur la prévention que sur le soin, et de prendre en compte tous les déterminants sociaux de santé des personnes. C'est-à-dire que les conditions de travail, l'absence de travail, le niveau des ressources, conditions de logement, tout ça, c'est évidemment des déterminants de l'état de santé d'une personne.
D'accord.
Pour illustrer un peu, on peut aussi mettre en avant que la plupart du temps, les campagnes qui sont lancées en santé ont plutôt vocation à changer les comportements des personnes, comme si... chaque individu pouvait adopter librement des comportements plutôt favorables ou plutôt défavorables à la santé. On pense qu'il y a des contraintes par rapport à ça et qu'il vaut mieux travailler sur l'environnement social, l'environnement économique, que sur les comportements individuels si on veut changer l'état de santé d'une population. Donc ça c'est pour le côté centre de santé. Je préciserai encore un peu plus sans doute après, mais pour le pôle ouais. Santé droit... Lui, ses missions, c'est d'assurer l'accès aux droits des personnes malades, voilà, quelles qu'elles soient. Accès aux droits sociaux, alors évidemment la protection maladie, c'est une étape première, hein. C'est-à-dire que si les gens rencontrent des problèmes de santé, il faut qu'ils aient une couverture sociale sur la protection maladie. Mmh. Mais ça va bien au-delà, puisque les personnes malades rencontrent la plupart du temps des difficultés pour accéder aux autres droits. Ça peut être les droits liés au handicap, ça peut être le logement, et pour une grosse partie des usagers et des usagères du centre de santé, c'est aussi des difficultés quant à la situation administrative et à leur séjour sur le territoire.
Et du coup, donc vous faites tout ça sur un statut associatif ?
Ouais. Ouais.
D'accord.
Un centre de santé, c'est un statut qui est fixé par l'assurance maladie, qui reconnaît trois formes d'organisation. Les centres de santé sont soit municipaux, il y en a beaucoup en France, surtout dans la région parisienne. Du coup, ils s'adossent sur un budget municipal, et donc leur déficit, on y viendra sans doute, et bien, il est couvert par le budget municipal. Soit ils sont mutualistes, et là c'est pareil, c'est intégré à une mutuelle, et il y a des modalités économiques particulières. Soit ils sont associatifs, comme nous, et là, ils ne peuvent compter que sur leur budget.
Voilà, mais alors j'ai reçu il n'y a pas longtemps le petit manuel en quatre étapes pour transformer Toulouse en vitrine UMP. Et donc, comme la mairie veut se débarrasser des SDF, une partie de la clientèle, enfin de la clientèle que vous recevez, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent vous virer.
Alors, le plus gros problème... nos problèmes sont tellement gros que c'est difficile de les hiérarchiser. Mais la mairie de Toulouse, par exemple, depuis qu'elle est passée à droite, elle a reconduit la subvention, elle ne l'a pas baissée. Il se trouve que qui a baissé la subvention de la case de santé, c'est la précédente municipalité lors de la dernière année.
Ce qu'ils ont fait aussi avec d'autres associations locales qui ont déjà baissé l'an dernier.
Ouais.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous lancez cet appel? On a reçu des communiqués, choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour la case de santé?
Alors, ce qui se passe immédiatement, c'est que on n'a pas les moyens de finir l'exercice. Et que, selon toute vraisemblance, s'il n'y a pas de décisions qui sont prises par les pouvoirs publics, on va être obligé de fermer. C'est évidemment une échéance qui est sérieuse et qui emporte des conséquences vraiment graves, surtout par rapport aux usagers et aux usagères qui sont reçus ici, parce que si on les reçoit à la case de santé, c'est en grande partie parce que tous les autres dispositifs soit ne veulent pas d'eux, soit ne sont pas en capacité de répondre à leurs demandes. Et que nous, on s'est adapté pour pouvoir prendre en charge des situations, alors effectivement de grande précarité, de vulnérabilité sociale, mais plus largement d'inégalité sociale de santé. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le centre de santé. Le modèle qui est proposé, c'est un modèle qui est alternatif à la manière d'organiser la santé sur les professionnels libéraux. Les médecins, les professionnels de santé qui travaillent à la case de santé sont salariés. Donc leur revenu n'est pas lié au nombre d'actes qu'ils réalisent, à la différence des médecins libéraux.
Donc vous êtes d'accord, c'est des salariés qui sont payés sur les standards de médecins professionnels ou au contraire
non, plutôt des très bas, c'est-à-dire que la convention collective du secteur, elle pose des niveaux de salaire qu'on ne peut pas assumer nous. Voilà. Donc nous, la référence qu'on a pris pour la grille des salaires des médecins, c'est celle des praticiens attachés, c'est-à-dire le premier niveau des médecins de l'hôpital public.
D'accord.
On considère d'ailleurs que ça répond à une logique, hein, que les missions des médecins à la case de santé relèvent plus du service public qu'autre chose, et que la manière d'organiser le travail en interne, c'est-à-dire en équipe, en ayant du temps qui est dégagé pour se former, pour élaborer des protocoles de coopération entre professionnels, tout ça, ça donne un cadre de travail qui est avec des salaires réduits, mais des conditions de travail qui sont plus intéressantes. Et surtout pour des professionnels qui refusent d'exercer sur un autre mode que celui-ci. Que recevoir des gens toutes les 5 ou 10 minutes dans un cabinet de 8h du matin à 8h du soir, certes, ça garantit un revenu moyen de 4 000 € net par mois, mais est-ce qu'on fait de la bonne santé? Est-ce que c'est épanouissant d'un point de vue professionnel quand on est médecin? Nous, on ne croit pas, quoi.
Je crois que vous organisez le samedi 4 octobre justement une journée porte ouverte sur la case de santé pour faire connaître un peu le travail qui a été réalisé jusqu'à là, puisque ça a fait 8 ans qu'elle existe. Et en même temps, on apprend qu'il y a une échéance qui pourrait être le 1er novembre pour... une fermeture si la situation, en ce qui concerne vos moyens financiers, ne s'améliore pas.
Oui. Il y a effectivement ces deux dimensions-là. Donc, en début d'après-midi, on fera une présentation, surtout pour les gens que ça intéresse et qui ne connaissent pas encore ce lieu. Et parce qu'on pense aussi que ça fait partie des bagarres, que de promouvoir ce type de modèle, qui est vraiment une alternative, hein. Et qu'il y aurait lieu de généraliser, surtout en ce moment où des enjeux en santé se posent et qu'on se rend bien compte que la manière dont c'est organisé en France, on va droit dans le mur. Donc il y a ce premier temps-là, et le deuxième temps qui est de se dire, voilà, cet outil il existe, il est reconnu, il est efficace, donc il s'agit aujourd'hui de le défendre. On a une échéance au 1er novembre qu'on a fixée, qui est si les pouvoirs publics ne réagissent pas et ne mettent pas des nouveaux engagements financiers sur la table, c'est ça qui va se passer. Le constat qu'on fait, c'est que depuis 8 ans, on galère. Pendant une première période, c'était de l'innovation, c'était de l'expérimentation, on faisait avec les moyens du bord, et cette étape-là, elle est passée. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les démonstrations qui étaient possibles, on a montré combien ça coûtait et combien c'était économe par rapport à l'argent public, c'est-à-dire l'argent de l'État et l'argent de l'assurance maladie. Parce que des médecins libéraux qui voient les gens de manière très brève, c'est aussi source de dysfonctionnement en termes de parcours de soins. On va multiplier les examens qui vont être redondants, ils vont être adressés aux spécialistes, alors que le médecin généraliste pourrait sans doute aller un peu plus loin dans le travail qu'il a à faire. Et tout ça, en fait, ça fait que ça coûte beaucoup plus cher à l'assurance maladie. Donc toutes ces démonstrations-là, elles sont faites. Tous les partenaires avec qui on travaille, c'est-à-dire que c'est les partenaires de droit commun, hein, les services sociaux du Conseil général, des CAF, des hôpitaux, les services hospitaliers, etc. Tous disent aujourd'hui on a besoin de la case de santé à Toulouse pour le travail qu'elle fait. Y compris l'assurance maladie reconnaît que le travail d'accès aux droits qu'on fait, il est précieux parce que il s'adresse à des personnes qui échappent à tous les dispositifs de droit commun.
Et en même temps, vous évitez que les gens, vu qu'il y a ce lieu-là, aillent s'entasser aux urgences.
Exactement, voilà. Ça fait partie des problèmes qui se posent. C'est que les urgences sont aussi engorgées du fait qu'il n'y a pas de réponse adaptée. En proximité, de manière fluide, pour les personnes qui... Et puis c'est aussi une conséquence du défaut du travail en santé qui est réalisé, c'est-à-dire que si les gens sont un peu plus armés, ont une meilleure connaissance de leurs problèmes de santé, de la manière de les prendre en charge, etc., ils sont plus autonomes, et donc du coup ils recourront moins aux services de santé, ou alors ils y recourront quand vraiment ils sont dépassés.
Mais est-ce qu'il n'y a pas là peut-être aussi un jeu un peu pervers de la part des services de l'État qui cherchent à tout prix à faire des économies actuellement, donc ils ne voient pas là ce que vous dites, qu'effectivement les économies vous les faites déjà faire, mais que en fermant une case de santé aussi, ça fait moins de personnes qui connaissent leurs droits et qui peuvent les réclamer. Alors c'est un peu cynique, mais est-ce qu'il n'y a pas ce jeu-là aussi?
Moi, ce que je vois surtout comme jeu actuellement, c'est une logique aveugle qui entend faire des économies en appliquant des coupes dans les budgets sans prendre en compte les conséquences. Là, on voit très bien que ce qui est proposé en termes de coupes budgétaires vont frapper effectivement tout, en particulier le milieu médico-social, et que des emplois associatifs par dizaines de milliers dans l'année qui vient vont être menacés. Si tout ça disparaît, la conséquence inévitable, c'est qu'il y aura des dépenses supplémentaires. C'est inévitable. C'est inévitable. Donc on est dans une réflexion qui est complètement inepte, où au lieu de favoriser des expérimentations comme celle de la case de santé, dont on sait que les conséquences, c'est un meilleur service, c'est moins de dépenses publiques, etc., on coupe les budgets qui permettent de les faire fonctionner. Et derrière, on n'envisage même pas comment on prendra en charge les conséquences.
Moi, je voulais poser une
sur
question.
L'accès au droit, juste sur l'accès au droit, parce que c'est une question importante, de se dire, effectivement, on a un outil d'accès au droit et que donc, du coup, c'est peut-être un caillou dans la chaussure et qu'il vaut mieux s'en débarrasser. Je pense que là, il y a une réalité évidente cette année, c'est sur l'accès au droit des personnes étrangères. Mmh. On a un gros travail autour de ça, accès aux soins et accès au droit des étrangers. Avec en particulier un protocole autour de ce que permet la loi française, c'est-à-dire le séjour pour des personnes malades, gravement malades, qui ne peuvent pas être soignées dans leur pays d'origine. Là, on sait très clairement que notre travail gêne et que s'il s'agit d'abattre la case de santé, ce sera aussi pour ça. Ouais.
Moi, je voulais faire justement un petit point des activités de la case de santé, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez comme professionnels qui sont et quels sont les... est-ce que vous avez des dentistes, des ophtalmos, enfin, exactement.
Alors ça, on aimerait bien, mais ça... En fait, pour l'instant, on a une équipe médicale qui est organisée autour de médecins généralistes, infirmiers, psychologues et des médiateurs en santé qui sont à l'accueil. Et le pôle santé droit, lui, c'est les travailleurs sociaux, donc assistants de services sociaux. Voilà, c'est là-dessus qu'on travaille. Les médecins, on leur demande d'avoir un exercice de médecine générale qu'on dit sur des missions avancées. C'est-à-dire que... Ils sont capables de faire la petite dermatologie, ils sont capables de faire de la gynécologie. C'est-à-dire que, par exemple, pour le programme santé des femmes qu'on a à la case de santé, il y a des difficultés d'accès à la gynécologie en ville. Là, c'est dans le centre de santé où on a l'habitude d'aller, avec le médecin généraliste qu'on a l'habitude de voir, que le suivi gynécologique peut se faire.
Voilà.
Mais c'est aussi le cas sur des pathologies un peu plus compliquées où, pareil, le fait qu'on ait des temps de formation qui donc ne sont pas rémunérés, parce que quand un médecin il est en formation en interne, il n'est pas en soins et donc il ne facture pas des actes. Donc c'est pour ces temps-là, par exemple, qui sont précieux, parce qu'ils permettent d'améliorer et le fonctionnement du centre de santé et le service rendu aux usagers et aux usagères, qu'il y a besoin d'argent public dans le financement de la case de santé. Donc, y compris sur des pathologies compliquées, ils sont capables d'aller très très loin et en gros de bilanter, de faire le bilan de la situation de la personne quasiment au complet avant d'orienter vers un spécialiste qui, lui, du coup, sera sollicité pour ce qu'il a à faire, c'est-à-dire ses compétences spécifiques dans une spécialité, et il fera son rapport au médecin généraliste, c'est-à-dire que la personne reviendra au centre de santé, et c'est le médecin généraliste qui pourra aller un peu plus loin dans les explications, dans les traitements qui sont mis en place. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'exercice en médecine générale ici, l'idée, par exemple, qu'il y a autour de la prescription médicamenteuse est très encadrée. On est complètement indépendant de l'industrie pharmaceutique, donc à la fois sur le fonctionnement et à la fois sur la formation, parce qu'il faut savoir que la plupart des formations auxquelles les médecins généralistes libéraux vont sont des formations qui sont financées, organisées par l'industrie pharmaceutique. Ici, il n'y a pas de ça. Donc des scandales comme le Mediator, c'est pas possible. Et puis le deuxième, troisième génération, c'est pas possible parce que ce n'est pas prescrit. La base de référence ici, c'est la revue Prescrire et tout le travail qui peut être fait par l'équipe médicale en temps hors soin pour recueillir des données et les valider.
Une autre question que je me posais, c'est je crois qu'à la case de santé, vous êtes aussi au lien avec des gens qu'on connaît sur Canal Sud, le groupe Étrangers Malades, et que vous acceptez évidemment toute population, qu'elle ait ou pas des papiers administratifs, puisque comme on dit, les virus s'en fichent des frontières, hein, donc c'est que quel que soit son pays, on a besoin d'être soigné. Est-ce que vous pouvez préciser comment ça se passe, l'accueil des personnes en situation sans papiers ou dites irrégulières?
Voilà, c'est une des logiques du projet de santé qu'on a mis en place, hein, qui est donc de ce que j'ai dit jusque-là, d'essayer d'organiser un service qui permette à la fois le premier recours et l'accès aux droits, et en ayant comme logique celle de la lutte contre les inégalités sociales de santé. Donc la structure et les programmes qui ont été mis en place au fil du temps, depuis 2006, ont cette idée-là, c'est-à-dire de cibler des situations d'inégalités sociales de santé et d'organiser l'accueil, l'accompagnement, le travail des professionnels de l'équipe en fonction de ces réalités-là. Donc, par exemple, pour les populations étrangères, en particulier celles qui s'expriment mal en français, on a recours de manière systématique à de l'interprétariat pour que la personne puisse s'exprimer le plus facilement possible, le plus précisément possible sur ce qu'elle vit. Et ça, c'est déterminant. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que le barrage de la langue, c'est un des plus gros problèmes rencontrés par les étrangers dans leur accès aux soins et dans l'élaboration d'un parcours de soins. Donc de manière effectivement inconditionnelle, mais de manière adaptée, on va accueillir toutes les personnes qui rencontrent des situations d'inégalité sociale de santé. Donc on a, 70% des usagers et des usagères de la case de santé qui sont étrangers. C'est monté au fil du temps parce que la structure est devenue une structure de référence, hein, sur ces questions-là à Toulouse, et que donc du coup les partenaires n'hésitent pas à orienter des personnes vers la case de santé pour ces programmes et pour son approche globale. Et ça doit représenter à peu près 77 nationalités. Donc il y a quelques situations particulières sur lesquelles on a travaillé, des programmes adaptés, des protocoles, c'est les migrants âgés, les Shibani. Les primo arrivants avec possibilité d'avoir un bilan de santé adapté, et puis les personnes étrangères qui souffrent d'une pathologie grave, qui ont un problème d'accès au séjour. Le groupe des étrangers malades, il s'est constitué dans la logique communautaire, hein, de la case de santé. C'est vous pouvez toujours voir un individuel, un professionnel pour répondre à vos besoins. Et ce que la case de santé propose en plus, c'est que les personnes qui rencontrent les mêmes difficultés, qui connaissent les mêmes réalités sociales, puissent se rencontrer, s'organiser et arriver à gagner un peu plus d'autonomie en santé.
D'accord.
Dans leur accès aux droits. Voilà, le groupe des étrangers malades s'est constitué par des personnes qui sont concernées par ce protocole et par la demande de titre de séjour. Et il a mené des bagarres de manière régulière depuis un moment. Mais en particulier depuis le début de l'année, on a un renversement complet de situation, avec un durcissement terrible au niveau du médecin de l'ARS, qui est le seul habilité à rendre un avis médical dans cette procédure, qui visiblement semble être en mission. En tout cas, il est en train de défoncer complètement ce droit. Il rend des avis négatifs en pagaille. On a pas une seule personne atteinte d'une hépatite qui a eu un avis positif depuis le début de l'année. On a des gens qui viennent de Centrafrique à qui il explique qu'ils peuvent très bien se faire soigner dans leur pays. Quand on connaît les situations de Centrafrique actuellement, c'est aberrant, quoi. Donc lui, c'est la première lame, y compris sur des renouvellements. C'est-à-dire des gens qui ont eu un avis positif parfois depuis 2, 3, 4 années avec un renouvellement de leur titre de séjour. Lui, ils voient passer leur dossier pour la première fois et ils décident que c'est fini. Avec ces personnes-là qui sont stabilisées, à la fois en santé, hein, c'est-à-dire qu'il y a des traitements, un suivi, des prises en charge qui sont mises en place, et qui du coup, puisqu'ils étaient en situation régulière, avaient aussi accès à des droits sociaux, voire à un hébergement, du jour au lendemain, tout ça, c'est fini.
Et du coup,
la deuxième lame, c'est le préfet,
oui.
Qui depuis le début de l'année aussi, systématiquement, quand il y a des avis... Donc les dossiers qui recueillent quand même un avis positif du MARF, la préfecture décide de faire des contre-enquêtes en sollicitant les consulats, mais à l'aveugle complet, puisqu'il y a le secret médical sur cette procédure. Donc le préfet ne connaît pas la pathologie pour laquelle la personne a demandé le titre de séjour. Se renseigne auprès du pays, décide que c'est accessible, le traitement est accessible, le suivi peut être pris en charge dans son pays d'origine, et prend des décisions de refus avec des OQTF. On est passé... Donc nous, ce protocole-là, il est développé depuis 8 ans et il obtenait très bons résultats parce que c'est sérieux ce qu'on y fait. L'année dernière, sur tous les dossiers qui ont fait l'objet d'une décision qui avait été accompagnée par la case de santé, on était à 92% d'accord de titre de séjour. Voilà. C'est pas parce que la préfecture et l'ARS nous aiment bien, c'est parce que les dossiers qui étaient présentés étaient solides, on les avait accompagnés. Voilà. Aujourd'hui, depuis le début de l'année... C'est complètement renversé. Il y a plus de 70% de refus sur les dossiers qu'on accompagne. Donc ça veut dire des choses, hein, quand même.
Donc il y a vraiment une volonté politique derrière. Oui. Et c'est peut-être ça qui fait aujourd'hui que vous soyez aussi en difficulté et qu'on ne se jette pas à votre rescousse, en tout cas au niveau des pouvoirs publics. Alors du coup, est-ce que pour conclure, vous pouvez rappeler comment on peut vous aider? Donc il y a d'abord cette journée porte ouverte, c'est ça, ce week-end?
Voilà, ouais. Dès samedi, donc à partir de 14h, on va se rassembler à la case de santé et puis voir avec les usagers, les usagères, les habitants du quartier et puis les soutiens qui veulent se présenter comment on agit dans les temps qui viennent. Parce qu'on sait très bien que c'est le rapport de force qui l'emportera. Hein. D'une manière générale, sur les financements qui sont nécessaires à la case de santé, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de ligne budgétaire qui corresponde à ce qu'on fait, puisque ce qu'on fait, c'est pas ce qui se fait habituellement. Quoi. Pourtant, il y a des discours politiques. La ministre de la Santé, elle a commencé à dire qu'il y avait une révolution à faire en santé et que les modèles qu'il fallait promouvoir, mettre en avant, c'était les centres de santé. Voilà. Et en gros, ce qu'on fait, quoi. Donc il faut qu'il y ait de l'argent qui soit aligné maintenant vis-à-vis de ces annonces-là. Si ce n'est pas le cas, c'est vrai que tout ça, c'est du flanc. C'est-à-dire que tous les enjeux en santé qui se présentent aujourd'hui, eh ben, on ne prête pas attention et qu'on peut laisser sur le carreau 1300 personnes qui, si on ferme au 1er novembre, au 2 novembre, elles n'auront pas de lieu de référence pour continuer leur prise en charge et leur suivi. Donc à partir du 4, on va commencer à mettre en place ça. Mmh. Et voilà, après on peut nous contacter directement.
L'adresse, c'est quoi?
C'est 17 Place Arnaud-Bernard. Mmh.
Sur la place, d'accord.
Ouais. D'accord. Et moi, je voulais vous demander de préciser pour nos auditeurs qui éventuellement connaissaient pas encore la case santé et qui auraient besoin de venir vous voir, vos horaires d'ouverture.
Alors, on est ouvert du lundi au vendredi et de 10h à 13h le matin et de 14h à 18h30 l'après-midi, sauf le vendredi après-midi où on ferme un peu plus tôt, on ferme à 16h.
D'accord. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis donc, n'hésitez pas à nous tenir au courant hein, des avancées.
On n'y manquera pas.
Ou des reculs sur le sujet. Vous êtes bienvenus sur les ondes de Canal Sud. À bientôt.
Merci bien. À bientôt. Au revoir.
Et puis, histoire de garder cette douceur et la douceur d'une prise de soins agréable et sympathique, Pierre Perret, l'hôpital sur Canal Sud.
De fer tout blanc et sur la table de nuit un bouquet d'anémones offert par un ami, un petit transistor qui vous soutient le moral C'est là tout l'univers des petits vieux de l'hôpital. Ici, ça sent l'urine et l'huile de goménol. Une femme aux cheveux blancs, tout doucement somnole. Elle attend des nouvelles de son fils qui lui a dit depuis des mois déjà qu'il viendrait un lundi. Qu'on est loin de son pays natal quand on se retrouve à l'hôpital. Un poète aux yeux clairs toute la journée fredonne. Il y a longtemps déjà qu'il n'attend plus personne. Et pourtant il écrit au poste de radio demandant au chanteur d'envoyer une photo. La salle commune est pleine et le docteur regrette que pour 40 il n'y ait qu'un cabinet de toilette et que ces deux infirmières accablées de labeur qui sourient et qui grondent mais ne comptent pas les heures. Qu'on est loin de son pays natal quand on se retrouve à l'hôpital. Ils dévorent en cachette leur paquet de bonbons. C'est meilleur que l'endive et l'éternel jambon. Mais ces dimanches heureux, en famille, en gâteau, peut-on les remplacer par un triste loto? Quel est cet humoriste?